Oh merde, non. On y va là? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour les devs. J'ai décidé maintenant de dire bonjour les devs parce qu'on est un podcast pour les développeurs fait par les développeurs. Donc bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash, l'épisode 101. Voilà, on passe une nouvelle étape. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde. Et ben ravi de rentrer dans cette nouvelle décennie centenaire, on dit, je sais pas, que tu vois, en tout cas, ouais, on rentre dans une nouvelle centaine et ça c'est plutôt cool. On reprend nos vieilles habitudes de faire des épisodes de news et on n'avait pas fait de news depuis le mois de novembre, même si le dernier daté était vraiment sur la fin du mois, c'était la RC3. Et donc on arrive sur la RC1 du mois de novembre avec plein de news. On va parler de Bunny qui se met sur le edge computing, la librairie d'animation de Motion qui fusionne avec Framer. On va parler de PHP, évidemment. On va parler de Angular 19. On va parler de Python qui revient dans le game. On va refaire un petit retour aussi sur le DevFest qu'il y a eu à Nantes. On va parler d'open source, on va parler d'IA un petit peu quand même parce qu'on est obligé. Et on va parler de IKEA qui a refait son site avec une techno qui a l'air plutôt pas mal. Et on va regarder ça. On attaque ?
Nouvelle techno. Ouais, on peut remercier nos sponsors, évidemment, comme d'habitude. On remercie toutes les personnes qui soutiennent le podcast via le sponsoring. Donc, c'est accessible sur le site dans la rubrique Nous soutenir. Voilà. Donc, merci à tous les sponsors. Ils sont 10, je crois, si je ne me trompe pas. Donc,
merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on attaque avec Bunny. Qui en fait se lance dans le edge computing, le edge scripting. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bunny, initialement en fait c'est un CDN qui est basé en Europe de l'Est et ils ont plutôt des prix très agressifs. Ils sont hyper compétitifs, donc on va pouvoir en fait stocker du contenu et le délivrer. Ils ont toute une architecture sur toute la planète avec des réplicas où ça va gérer en fait toute la distribution du contenu. Ils sont passés sur de la vidéo aussi. Ils viennent tout le temps en fait rajouter des nouvelles fonctionnalités. Et aujourd'hui en fait, ils viennent d'introduire en fait ce concept de Edge, c'est-à-dire d'exécuter du JavaScript au plus près de l'utilisateur. Alors, tous ceux qui utilisent Vercel ou Netlify ont déjà ce système-là en place depuis longtemps, mais eux, en fait, ils viennent capitaliser sur leur infrastructure pour exécuter ce bout de code JS potentiellement sur des workers qui se trouvent en fait au plus près de l'utilisateur. Alors, on est encore loin de la DX, on va dire, qu'on peut avoir sur, par exemple, un Next ou un Nuxt où tu fais un Vercel Deploy ou des choses comme ça. Voilà, ils ont leur propre SDK. Mais potentiellement, moi, je reste un petit peu convaincu que demain, Next ou Nuxt ou des gros acteurs, en fait, vont écrire des presets pour qu'on puisse déployer directement sur cet nouvel opérateur. Et donc, ça, c'est plutôt bien. Et en plus, ouais, avec des pricing toujours assez agressifs, quoi.
Ouais, ridicule, quoi, les prix.
Ah non,
les prix sont...
Ouais, c'est vraiment hallucinant. On peut dire quand même
que... Il y a deux secondes, ouais, je crois. T'étais dessus, c'était 2 millions de requêtes pour, je sais plus quoi, 0,2 centimes, ou je sais pas, un truc.
Ouais, c'est quasiment les mêmes prix que Cloudflare. Je sais pas si tu te rappelles, mais Cloudflare à ces tarifs-là, je crois que c'est 20 centimes la million d'exécution de requêtes. Et un peu aussi du CPU, mais on est très 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 bas en termes de tarifs. Bon, j'arrive pas à le retrouver pour le montrer exactement, mais c'est délivré par Deno, donc le runtime c'est Deno.
Ce qu'ils disent, c'est au-dessus, c'est les fonctions qui tournent au-dessus de Deno en fait. Donc la base du truc, c'est Deno. Donc, et surtout, c'est hyper simple à mettre en place, quoi. S'il y a quelques exemples là dans la page, c'est ultra, ultra simple. Il n'y a pas de...
Ouais. Moi, le seul truc que je vois, c'est que je suis obligé d'utiliser leur propre SDK. Tu vois, en fait, j'ai leur SDK qui vient wrapper mon truc à moi. Et en fait, ouais, ça c'est pas super facile. En tout cas, je trouve pas ça en termes de développeur expérience. C'est peut-être pas le plus ultimum. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ils viennent un peu challenger le truc. Demain, ça va évoluer et les frameworks en fait vont écrire leurs presets. Je suis quasiment sûr et certain que les mecs de Nuxt en fait qui ont déjà fait leurs presets pour Nitro, tu vois, où je pense à des frameworks type Ono, tu vois, qui se veulent un petit peu les successeurs de Express. Pour le coup, je suis quasiment sûr qu'ils vont développer leur propre preset. Et voilà, tu feras un preset spécifique et ça sera directement injecté sur cette plateforme. Donc, un nouveau provider qui rentre sur le edge computing. Et ça, c'est plutôt toujours une bonne nouvelle, quoi. Parce que plus il y a d'acteurs et plus ça se tire la bourre et plus au milieu, nous, les devs, on s'en sort, quoi. Donc, c'est bien.
Oui. Bunny, en fait, comme tu l'as dit, c'est un équivalent de Cloudflare. Hein, c'est vraiment concurrent direct d'Europe de l'Est avec des tarifs hyper agressifs.
Top.
Notamment, je crois, tout ce qui est vidéo streaming, tout ça, ils sont vraiment.
Ceux
qui ne connaissent pas, allez jeter un coup d'œil à Bunny, c'est intéressant.
Ouais, exactement. News suivante.
Yep. Framer.
Exactement, Framer Framer Motion en fait, qui était une librairie indépendante d'animation, mais qui était maintenue quasiment par Matt Perry, et il avait fait une autre librairie qui s'appelait Motion, qui elle était se voulait un petit peu plus agnostique en JavaScript pur. Et là, il fusionne en fait les deux projets. Et pour le coup, je pense qu'en termes de maintenance, ça doit être beaucoup plus facile pour lui. Et pour le coup, c'est quand même pas mal. Donc il a fait tout un article. Et pour le coup, je crois que sur le site de Double Slash, on utilise cette librairie-là, je crois.
Oui. Ouais, on a Motion. D'ailleurs, j'ai mis à jour il n'y a pas longtemps. J'ai mis à jour les dépendances. Ça n'a rien cassé. C'était une version qui était majeure, mais ça n'a rien cassé, donc ça va. On a bien bossé.
C'est cool. Et pour le coup, Motion, en fait, se veut un peu le successeur de GSAP en termes de poids, il est beaucoup plus léger, il est aussi rapide, il y a quasiment en fait 99% on va dire des API de GSAP en fait sont recodés dans Motion, donc on peut faire du staging, des timelines, des choses comme ça, des choses vraiment complexes. En fait, on va pouvoir le faire directement avec Motion. Et on a un SDK JavaScript pur, et il a fait un SDK spécial pour React aussi. Donc,
surtout ça s'implémente super facilement dans des applications React, tout ça, ou Vue en fait. Parce que voilà, on voit l'exemple, c'est un motion.div, donc ça te fait un div, et après tu as des directives animate, tout ça, et c'est hyper simple en fait. Tu as juste à wrapper en fait tes éléments, et après ils se mettent en animation. Et pour l'avoir déjà utilisé, c'est hyper simple de faire des animations, des simples animations dans une application, quoi.
Ouais.
C'est top ça.
Complet. Et pour le coup, tu vois, quand on avait fait le site de Double Slash, que tu as mis à jour, et on vous invite à aller voir les nouvelles modifications que Patrick a faites, c'est vachement classe. Maintenant, on a toutes les pochettes, tout, c'est vraiment stylé. pour le coup, en fait, le gros avantage que je voyais, c'est que en fait, c'est totalement agnostique. Et moi, à l'époque, il avait fait une librairie avec Vue, et en fait, c'était vachement plus complexe que le faire en JavaScript pur, quoi. Et donc j'étais resté sur la partie JavaScript parce que c'était ultra simple à utiliser, c'est pas du tout verbeux et tu comprends en fait ce que tu dois faire, tout, c'est vraiment bien fait. La doc est hyper bien faite, hyper structurée, on comprend pas, on comprend tout de suite ce qu'on a à faire et on peut en fait utiliser, il y a des exemples. Et bah, c'est assez facile à mettre en place. Donc, si vous avez un projet d'animation, un truc léger, Motion, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal.
Ouais, c'est vrai. Après, GZAP reste vraiment pas mal aussi, mais Motion, c'est ouais, pour être un peu plus light et tout, c'est pas mal.
Mise à jour de PHP ! PHP qui passe en 8.4. super news, ultra fraîche. Ouais. Clairement.
Ouais, on est le 21 que... et c'est aujourd'hui, en fait. Ouais. Comme ça.
Donc, on ne peut pas faire plus frais. Qu'est-ce que ça amène de news à savoir que moi, j'évolue pas trop dans l'univers PHP. Ouais. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qui est vraiment du gros breaking change, un gros truc non, de ouf, ou alors c'est juste une évolution classique.
Non, il y a deux fonctionnalités vraiment intéressantes. Après, il y en a plusieurs, mais deux notables, c'est les properties hooks là, qu'on a sur l'écran là, qui te permettent... Alors, les getters, les setters existaient déjà au niveau des classes PHP, mais là, on a carrément dans une propriété, dans une valeur de la classe, on peut maintenant mettre un get et un set pour modifier la valeur, retourner ou insérer. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas dispo, et voilà, maintenant c'est dispo. C'est quelque chose qu'on a déjà dans JavaScript, tout ça, mais là, voilà. Donc, c'est pas mal de pouvoir modifier à la volée une valeur quand elle est insérée directement. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, on a une nouvelle fonction qui s'appelle ArrayFind, qui permet, comme dans JS, de trouver le premier élément qui correspond à la recherche. Il y avait d'autres fonctions, mais voilà, okay. Petit à petit... Il y a le map qui est arrivé il n'y a pas super longtemps aussi. Hein. Donc voilà, c'est des choses, c'est intéressant parce que tu vois, c'est des choses qu'on a déjà dans JS, dans d'autres langages qui sont implémentés. Voilà, il y a des façons de le faire. Enfin, on pouvait déjà le faire, mais d'une façon... Là, c'est plus simple. Voilà.
Ok. Et par contre, là, je vois, c'est marqué en RCF. C'est officiel ou c'est encore derrière un flag ou derrière quelque chose?
Bonne question. Tu me poses une colle.
Normalement,
c'était officiel. Ça sort dans la 8.4. Alors peut-être qu'il y aura des améliorations par la suite, mais normalement, c'est officiel.
Ok. Dac. Nice. Nice. Très, très nice. Et de toute façon, on mettra évidemment tous les liens qu'on montre à l'écran, on les met directement dans les notes de l'épisode et vous pouvez aussi aller sur le site de Double Slash et vous retrouver tout développé. Docusaurus qui est maintenu par notre collègue Sébastien Lorbet qui est venu sur Double Slash nous présenter justement cette solution de création de documentation. Là, grosse mise à jour, il passe en 3.6. Et j'ai vu des benchmarks. Apparemment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide.
Ouais, ils ont mis à jour tout le tooling de compilation. Ils sont passés sur RSPAC, SWC, là, le compilateur pour React, Lightning CSS. Et donc, compilation ultra rapide par rapport à avant, déjà. Gros gain de compilation. Et après, il y a certains sites, alors d'après les stats qu'ils ont, tout ça, certains sites qui vont 2 à 4 fois plus vite, en fait.
C'est beaucoup.
Il y a vraiment une grosse différence, une grosse impact, voilà, de sur cette version en fait. Voilà, les sites sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus rapides à compiler. Donc, on gagne dans tous les sens.
Nice, excellent, excellent.
Ouais.
Allez, on enchaîne. Angular 19. Il n'était pas déjà sorti Angular 19 ou c'était en fait une preview alors c'était la 18
c'était la 18, la 19 sort là maintenant ils annoncent le 20 je crois, enfin c'était hier je crois l'officiel je crois.
D'accord.
Le 20. Donc 19 qui continue son évolution. Donc il y a beaucoup d'évolutions dans ce. J'en ai noté quelques-unes, mais voilà, il y a pas mal de nouveautés. Mais la première, c'est l'hydratation incrémentale. Ouais. Derrière, alors ils expliquent. Ils ont un système dans les templates qui s'appelle @defer là, qui permet de déférer en fait l'hydratation de certains éléments. Pour faire court, c'est comme le Island Component. Voilà. Voilà. Ou ce qu'on avait sur. Comment il s'appelle le framework JS là où quand tu cliques en fait ça va charger le JS. J'ai un trou de Misco.
Quick.
Tu le vois pas? Quick, ouais, voilà. Voilà. Quick, c'est le principe de Quick où tu as des éléments qui sont affichés, mais tant que tu n'as pas mis la souris dessus ou un truc comme ça, il ne va pas charger le JS qui le fait fonctionner. Bah là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que les éléments sont affichés à l'écran, mais tant que tu n'as pas interagi avec eux ou quoi que ce soit, il ne s'est pas hydraté en fait. Donc, ouais. En fait, c'est un gain de vitesse parce que le JS qui correspond à chaque bloc n'est pas chargé et ça, c'est hydraté à la demande. Enfin, voilà, il y a différents modes d'hydratation. Mais pas mal hydratation incrémentale, donc ça c'est bien, toujours un gain de performance quoi.
Et est-ce qu'on n'est pas en train de voir un peu tu vois, le côté serveur component en fait qui est en train de se démocratiser? Alors ils l'appellent sous différents noms, mais au final c'est le même concept, un peu adapté à tous les frameworks. Voilà, c'est on va faire du server side rendering sur des composants et on va les appeler à la volée quoi. C'est un peu ça quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, okay. C'est tout ça, un peu le même principe. C'est qu'ils ont toujours à peu près les mêmes concepts. Après, c'est des noms différents, mais c'est ça. Ouais. Tout à fait.
Et par contre, ce que je vois, c'est que sur le lien qu'on a mis là, où ils expliquent, c'est en français. Donc,
Angular.fr, ouais. Ouais.
Et donc, souvent, ça peut arriver qu'on ne comprenne pas toujours l'anglais. Mais là, pour le coup, c'est assez rare pour le notifier. Que toutes les explications sont faites en français, donc il n'y a plus d'excuses.
Je crois que c'est une communauté. Ouais, mais je crois que c'est un site de la communauté française qui traduit. Il me semble. Okay. Top. Angular.fr. Je dis pas de bêtises, mais voilà. Donc mais c'est cool. Ils ont été super actifs. C'est déjà dispo et tout, donc c'est cool. Bravo à eux. Standalone, en fait, depuis quelques temps, on peut générer des components standalone. C'est des components beaucoup plus simples qui ressemblent à tout ce qu'on fait sur React, tout ça. C'est des components. Avant, on était obligé de faire des modules, tout ça. Enfin, voilà, je ne suis pas un spécialiste d'Angular, mais avant, c'était compliqué. Tu voulais faire un component, il fallait faire un module, machin, bidule, tu avais plein de fichiers qui étaient générés. Depuis quelques temps, on a un mode standalone qui est plus simple où tu as juste un component. Et maintenant, c'est par défaut, parce que jusqu'à la 18, il fallait mettre standalone true, un truc comme ça, dans les lignes de commande. Maintenant, c'est par défaut. Donc, on simplifie les choses. Toujours plus. Voilà, Angular se simplifie de plus en plus. Ça, c'est cool. Ils ont un système aussi de migration pour les signaux. Donc, ils ont intégré les signaux, tout ce qui est signal, en fait, au niveau d'Angular, pour virer zone.js, qui était trop lourd, et voilà. Donc, maintenant, les signaux sont intégrés. Et donc, pour ceux qui veulent migrer les applications, vers les signaux, il y a un système de migration automatique où tu vas taper, ça va te changer les components. Enfin, voilà, donc ça, c'est cool. Il faut noter qu'Angular, souvent, a des outils de migration qui sont assez pratiques hein, pour passer les versions, etc. Donc ça, c'est cool. Voilà, passer sur les signaux pour une application plus réactive et tout ça.
Peut-être aussi peut-être qu'ils ont appris aussi la communauté ou en tout cas les créateurs ont entendu la souffrance qu'il y avait eu de la version 1 à la version 2 où ils avaient en fait ils s'étaient vraiment tiré une balle dans le pied et donc maintenant c'est devenu dans leur corps et dans leur ADN de faire quelque chose qui est évolutif et où la migration ne se fait pas dans la douleur et dans la souffrance quoi. Donc, important.
Ouais, non, mais c'est vrai que ça, ils ont toujours proposé ces outils de migration. Ça, c'est vraiment un point fort d'Angular. Dernière chose, après, il y en a plein, mais voilà. Le rendu hybride dans Angular, donc c'est un... t'es en plein dessus. C'est de pouvoir choisir pour les routes différents modes, soit un mode pré-render, un mode serveur, un mode client, ce qu'on retrouve, évidemment, dans d'autres frameworks. Mais voilà, c'est dispo. Voilà, top. Ça se paramètre et tu peux dire cette route-là sera pré-rendue, etc. Donc, rendu hybride dans Angular 19. Donc, on voit que Angular progresse, se simplifie et prend un petit peu dans les autres frameworks ce qui existe et l'applique chez eux. Donc, super Angular, quoi.
C'est méga propre. De toute façon, les trois se tirent la bourre. On le dit toujours, mais c'est vraiment... Et là, on le voit bien, quoi, que les trois frameworks majeurs se tirent la bourre pour faire de la qualité et tendent vers la même chose. Donc c'est plutôt sympa. On parle beaucoup de JavaScript, c'est vrai, mais sur la conférence de GitHub, il y a eu... Un petit point en disant que apparemment Python, il y a de plus en plus de projets Python sur GitHub. Je crois que l'IA en est pour quelque chose. Et donc, il y aurait plus de projets sur Python que sur JavaScript.
Ouais, Rapport Octoverse 2024, Python surpasse JavaScript. Voilà, en tant que langage le plus utilisé sur GitHub. Merci, Lia. Ouais. Non, en fait, clairement, pour faire un peu d'IA en ce moment, tout ça, de code, Python, en fait, t'es obligé de faire du Python, quoi. L'IA, c'est tout ce code en Python, il y a plusieurs frameworks, etc. Donc, t'es obligé de faire du Python. Donc, voilà, le Python surpasse JavaScript. Donc, ça a été assez étonnant parce que, vu la quantité de projets JavaScript qui existent sur GitHub, tu te dis, voilà.
Ouais.
Mais Python revient en force devant grâce à l'IA. Donc, c'est vraiment une croissance de l'IA hein, sur GitHub, ce qu'ils indiquent dans le rapport. Projets IA génératifs ont augmenté de 59%, une hausse de 98% du nombre de projets. Donc, c'est vraiment une adoption rapide de l'IA par les développeurs.
Wow.
Donc, voilà. Beaucoup de personnes se mettent à l'IA, développent des petits trucs, tout ça. Et ils notent aussi une expansion mondiale des développeurs. Donc, ils disent que ça a considérablement augmenté le nombre de développeurs. Alors, quoi qu'on en dise, l'IA doit nous remplacer, etc. Mais en tout cas, il y a toujours plus en plus de développeurs. Et notamment en Inde, ils disent, au Brésil et au Nigeria. Voilà. Et surtout, ils indiquent que l'Inde est en passe de devenir la plus grande communauté de développeurs sur GitHub d'ici 2028.
Ouais.
Donc, finalement.
Ouais, ça ne me surprend pas. Hein. Ouais, clairement.
Donc, c'est pas l'IA qui va nous remplacer, c'est l'Inde.
Voilà. Et pour le coup, est-ce que ces développeurs, en fait, doivent faire du JavaScript comme aujourd'hui, ou est-ce qu'on est en train de voir un espèce de schisme qui est en train d'apparaître au sein de JavaScript, et il y a des personnes dont Google, Apple, des grands noms de la tech qui œuvrent en fait pour splitter le JavaScript en deux langages. C'est quoi cette proposition-là?
C'est dans la réunion de standardisation du TC39, en fait, ils ont proposé, en fait, il y a un ingénieur de Google qui a proposé de scinder en deux JavaScript, voilà. Voilà, en deux langages distincts. Voilà. Donc, ça a donné des vives discussions sur Hacker News.
Donc, tu m'étonnes. Voilà.
Et t'as forcément beaucoup de gens qui sont pas d'accord,
bah oui.
Qui sont d'accord. Enfin, voilà, chacun se donne ses arguments comme d'hab. Donc l'idée, ce serait de faire un JS0, en gros, il l'appellera comme ça. Ce serait une sorte de noyau JavaScript qui serait implémenté dans le moteur, tout ce qui est navigateur, etc., et qui serait qui serait simplifié. Voilà, ce serait la base du langage pour que ce soit performant, tout ça sécurisé. Et ensuite, l'idée, c'est de faire un JS Sugar. Alors, les noms, c'est juste pour proposer quelque chose.
Après, c'est pas définitif. C'est des noms de code, quoi.
Ouais, c'est pas définitif. Puis ça se trouve, ça se fera jamais aussi. Hein. Donc, qui serait une version enrichie et qui serait obligée de passer par des compilateurs pour se retrouver en version JS0. Voilà. Donc, tu aurais une version JS que tu vas compiler pour que ce soit en JS0. C'est un peu bizarre, c'est un peu ce qu'on a aujourd'hui avec TypeScript, qu'on va compiler pour que ce soit JavaScript. C'est pas loin, en tout cas. Donc voilà, l'idée, c'est ça, pour éviter d'avoir plein de fonctionnalités inutiles dans le moteur de base, en fait. Et bon, je sais pas trop ce que ça va donner.
Après, est-ce que en fait, comme tu l'as déjà dit, c'est déjà un peu le cas, tu vois. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'on va vers une complexification, et c'est déjà de plus en plus compliqué. On se rend compte que chaque framework vient rajouter des couches et des couches et des couches, et ça devient de plus en plus compliqué. Et le fait d'avoir deux langages, tu vois, est-ce que ça serait pas encore une version encore plus compliquée? Je sais pas, j'ai l'impression que la tendance, ça serait quand même à essayer de tendre vers une sorte de simplification. Et là, en fait, ça prend pas trop le chemin, quoi. Donc, je sais pas.
Je trouve que ça compliquerait encore les choses pour un nouvel arrivant de comprendre qu'il y a deux langages, enfin, il y a deux versions, etc. Et il souligne aussi que ça donnerait une dépendance aux outils de compilation, ce qui est pas forcément très bon. Donc, alors qu'on a plutôt tendance aujourd'hui à dire essayer de faire sans compilation, tout ça. Donc, je sais pas trop. Moi, je suis pas trop... Je sais pas quoi. J'ai pas d'avis là-dessus. Après, pourquoi pas, mais c'est bizarre.
Sceptique. Ouais, de toute façon, pour l'instant, avant que ça arrive officiel, il y aura du chemin entre.
Ouais, moi je trouve que.
C'est une idée, quoi.
Oui, JS est compliqué, oui, se complique, oui, mais se simplifie aussi, comme par exemple l'idée d'intégrer des signaux natifs dans JS, par exemple, tu vois. ça simplifierait pas mal de choses, puisque les signaux sont dans plein de frameworks. Donc, imaginons que demain, si c'est intégré en natif, bah, les frameworks utiliseraient le système natif, donc ça allégerait les frameworks. Donc, pourquoi ? Voilà, ça se complique, mais ça se simplifie d'un autre côté aussi. Donc, ouais, diviser ça en deux, c'est un peu chelou, quoi.
Ouais. Ouais.
Voilà. J'ai jamais, en tout cas, je connais pas de langage divisé en deux versions.
Non.
Enfin, je connais pas tous les langages du monde, mais je vois pas un langage, ouais. Tu vois, PHP en version simple et en version compliquée, je sais pas. C'est un peu bizarre l'idée. Ouais.
Bah, pour le coup, Pouria Ezzati, elle a pas attendu le schisme du langage JavaScript pour sortir du JavaScript. Et en fait, elle a migré son Next.js en HTML, HTMX, en fait. Ouais. Et donc, elle a réduit...
C'est un mec.
Ah ouais. Ah, Pouria Ezzati. Oh merde, j'étais persuadé que c'était...
Non, mais c'est pas grave.
Toutes mes excuses. J'étais persuadé...
Non, je te dis ça parce que j'ai regardé la vidéo et j'ai entendu sa voix, c'est pour ça. Mais sinon, okay. J'aurais pu faire la même erreur.
Ah ouais, j'étais persuadé. Bon, ma faute. Mais pour le coup, en fait, migration, transformer Next.js et le recoder avec du HTMX directement. C'est quoi surtout le gain de cette opération, en fait?
Alors, Pouria, il développe un URL shortener qui est pas mal d'ailleurs, que tu peux auto-héberger tout ça. Donc, c'est déjà le truc est pas mal. Je connaissais pas, tu vois, j'ai découvert. Là, en fait, l'article, c'est sur une expérience, une réelle expérience sur comment migrer, voilà, simplifier les choses. Et en bas, en fait, donc il explique dans sa vidéo comment, ce qu'il a fait, etc., machin. Il était sur Next.js et la version, il maintenait le truc. Donc, c'est une Next.js dans les dernières versions, tu vois. C'est pas un truc qui a 6 ans, qui a pas bougé. Donc, vraiment, une grosse maintenance. Et pour résumer, en fait, il a réduit les dépendances de 87%. Il est passé de 24 dépendances à 3. Voilà.
Ça, c'est énorme.
Il écrit moins de code parce qu'il écrit quand même encore beaucoup de code parce qu'il est passé sur un moteur de template. Je crois que c'est Handlebar. Enfin, voilà. Donc, il n'y a plus de Next, mais il y a quand même des Handlebar d'un côté pour faire l'HTML, l'HTMX, tout ça. Il a réduit, alors ça c'est marrant, le temps de compilation de 100%, puisqu'en fait il n'y a plus de temps de compilation, il n'y a plus de compilation. Donc,
forcément. 100% de gain.
Ouais, et oui. Plus de compilation. Et surtout, le website a réduit de 800, il était à 800K et il est passé à 100 kilobytes. Donc, gros gain en fait. Gros gain dans tous les sens en fait. Et il marche de la même façon en fait. Voilà, c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Donc, intéressant. Et je crois que maintenant, je crois qu'à un moment, je regardais dans la vidéo, il fait voir aussi que ça fonctionne aussi sans JavaScript, le truc. Donc, voilà. Donc, il a gagné de tous les côtés. Et voilà. Après, ça représente quand même un énorme boulot hein, de passer d'une application Next.js à un truc plus simple en HTMX. Mais donc, c'est la version 3. Si vous allez sur le GitHub, la version actuelle, quand tu arrives, c'est toujours en Next. Il faut aller sur la version 3 qui n'est pas encore officiellement sortie, je crois, pour voir la version HTMX et pouvoir explorer le code, tout ça. Mais...
Ah, sur la version 3 de son logiciel à lui, c'est ça?
Ouais.
OK.
Mais dans tous les cas, voilà, c'est super intéressant. Et puis, même l'URL shortener, là, il est cool. Hein, on peut l'utiliser. Il y a le GitHub, tu peux l'installer chez toi et tout. Donc, pas mal aussi.
Nice. Allez, on va passer dans l'univers un petit peu plus design et un petit peu plus joli des CSS Clamp. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont jamais utilisé la propriété CSS Clamp, comment tu pourrais définir ça, Patrick? Je te prends un peu à la gorge, je suis désolé, mais...
Ah non, je l'utilise depuis un moment, mais c'est une propriété qui est dure à comprendre. D'office, tu vois, tu mets du temps. Moi, j'ai mis du temps à comprendre, mais comment ça fonctionne? Je comprends pas. En plus, des fois, tu as des calculs et tout. Tu dis, t'es avec des divisés par, je sais pas quoi, 2%, machin. Clamp, en fait, il y a trois valeurs. C'est une propriété CSS qui est native. Hein, qui a, la première, c'est minimum. Au milieu, c'est la taille que tu veux, préférée, en gros. Et la dernière, c'est la maximum. Voilà. Et en fait, par exemple, pour une taille de fonte, en fait, ben, ça va se réduire tout seul. En fait. Ça va être soit de la plus grosse à la plus petite. Et si tu fais bien les choses avec le calcul central, c'est là où on rentre dans les calculs. Et ben, en fait, avec la taille du device, ça va réduire en fait, automatiquement la taille de la police. Donc, c'est de plus en plus utilisé. Et voilà. Et donc, ce plugin Tailwind permet d'utiliser la propriété clamp. En fait, ça va générer des clamps à la volée avec un. Donc, tu utilises le tilde. Donc, ça s'appelle comme ça, le petit
tilde. La petite vague.
La petite vague voilà, qu'on a sur le clavier, c'est le tilde. On le met juste avant, donc PX-4/8. Et donc, le minimum, ça sera 4 et le maximum 8. Et après, il va faire le calcul entre les deux pour que ça s'adapte. Voilà.
Top.
Et l'idée, en fait, c'est. Ouais. L'idée, c'est de faire du CSS sans breakpoint, donc faire du responsive sans breakpoint. Et grâce à Clamp, en fait, de gérer tous ces systèmes de marge, de taille de texte, etc.
Et donc, l'idée, en fait, c'est de supprimer les media queries, en fait.
C'est ça. Okay. D'utiliser au minimum. Ouais. C'est vrai qu'après, c'est un jeu intéressant. Moi, j'essaie de le faire un petit peu. Ce n'est pas forcément facile. Mais on y arrive à peu près avec tout ce qui est flex et grid, tout ça, de se passer des media queries avec des systèmes qui vont passer à la ligne automatiquement, etc., dès que tu arrives à une certaine taille. Donc, ouais. Mixer avec avec les clamps et tout ça, tu arrives à faire quand même quelque chose de correct sans media query. On arrive à dégager les médias et.
Ouais. Après, des fois, ça simplifie les choses. Je pense que, comme dans Tailwind, souvent, en fait, il faut bien maîtriser ton CSS pour bien maîtriser Tailwind. Sinon, ça ne sert à rien. En fait, tu sais pas faire. Donc, il faut déjà que tu connaisses ton CSS. Et après, tu apprends à le faire avec Tailwind. Là, c'est exactement pareil. Là, on voit, c'est un exemple avancé. J'en conviens, mais là, on est sur des breakpoints avec des fluides. Là, ça commence un peu à piquer un peu les yeux, quoi. T'as vague MD/LG2. Waouh, là, t'as intérêt à vraiment bien connaître. Par contre, effectivement, tu vas pouvoir en fait faire des choses hyper stylées sur la taille de ton texte qui va en fait s'adapter automatiquement. C'est hyper puissant. Par contre, je pense qu'il faut vraiment gérer les CSS clamp déjà nativement, de bien comprendre avant de l'intégrer dans ton Tailwind. Sinon, tu risques de pleurer un peu quand même.
Ouais, c'est clair. C'est clair. De toute façon, il faut connaître le CSS. De toute façon, utiliser correctement Tailwind, il faut connaître le CSS. J'espère qu'il n'y a pas des personnes qui ont directement commencé avec Tailwind et qui n'ont jamais écrit de CSS, parce que là, c'est... c'est un peu grave, mais
Ça va être compliqué pour eux, quoi.
C'est clair.
De toute façon, à un moment donné, ils seront limités. Justement, en parlant de limitation, la librairie qu'on présente là met clairement déjà des limitations et on voit des exemples très clairs où ils montrent en fait que parfois ça pourra pas marcher si on utilise des propriétés type calque ou des choses comme ça. On pourra souligner quand même la qualité visuelle du site. C'est quand même super fait. Il est super classe. Il est fortement inspiré de Tailwind CSS, le site on va dire original. Il reprend un peu tous les codes. C'est super clair, c'est super explicite. Les exemples sont très bien. Et en plus, la librairie qu'il propose est ultra puissante.
Ouais, donc c'est Fluid Tailwind, je crois, ça s'appelle, c'est ça.
Exactement, Fluid Tailwind et une petite installation et c'est parti.
Voilà.
Allez, on bascule à Nantes sur le Dev Festival, le Dev Fest Nantes 2024, qui a eu lieu le 17 et le 18 octobre. On a des photos, on a des vidéos de tous les speakers. Il y avait je ne sais pas combien de speakers.
Oui, c'était pas mal. Il y a conférences.
Beaucoup de monde. Est-ce que tout a été filmé et tout est disponible?
Bonne question, je crois que oui. Tout est dispo sur YouTube en tout cas. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube. J'en ai regardé quelques-unes. J'en ai encore d'autres à regarder que j'ai plus le temps. Mais DevFest qui est super sympa. Moi j'adore la déco chaque année. Ils font des décos super sympas. Et nice. Cette année, le thème c'était les zombies, tout ça avec. Comment ça s'appelle la fête. Putain, j'ai des trous.
Halloween.
Halloween, ouais. Okay. C'est ça. C'était sur le thème d'Halloween, donc il y avait des trucs avec des zombies, machin, du sang et tout ça. C'était cool. L'année dernière, ils avaient fait un truc aussi dans ce style. Je sais plus ce que c'était la déco, mais chaque année, ils font des super décos et même sur scène, tout est adapté. Tout ça, c'est vraiment chouette. Puis il y a souvent des bonnes conférences. Mm-hmm. Et donc sur YouTube, il y a tout qui est dispo. Moi, j'en ai noté 4, mais il y en a encore d'autres aussi que vous pouvez regarder. Très intéressant. Donc la première, c'était avec Christophe Portneuve qui fait une conf sur ES 2026. Donc, quoi de neuf dans ES 2026? Donc, conférence intéressante si vous êtes dev JavaScript parce qu'il explique un peu ce qui arrive, ce qui est arrivé, etc., ce qui est en draft et tout ça. Donc, vraiment intéressant. De toute façon, toujours intéressante hein, les vidéos, les confs de Christophe Portneuve. Il y en a une où ils sont deux, ils parlent du React Compiler. Donc, voilà, comment il fonctionne, comment, pourquoi ils l'ont créé, etc. Donc, intéressant aussi. Si vous faites du React. Ensuite, on a Adam Argyll, je pense que c'est comme ça son nom, qu'on le prononce, mec qui bosse chez Google encore, il me semble, qui fait une conf, donc qui est américain, hein, qui fait une conf Amazing CSS in 2024. Donc voilà, intéressant sur tout ce qui est CSS. J'ai pas regardé encore celle-là, mais il doit certainement parler beaucoup de scroll animation, tout ça, qui est actif. Et il y a aussi une conf que j'ai commencé à regarder mais que j'ai pas fini, c'est Server Side Wasm. Donc comment refaire une sorte de back-end avec Wasm dans le client, etc. Donc comment ça fonctionne, comment Wasm fonctionne, comment tu interagis avec lui, tout ça. Donc voilà. Mais après il y en a plein d'autres hyper intéressantes aussi. Voilà.
Nice. Encore plein de vidéos à regarder sur les tendances, les évolutions, sur la techno qui évolue. Top.
J'ai jamais assez de temps pour regarder toutes les vidéos qui sortent. Non. Il y a tellement de vidéos.
On est d'accord. On est complètement d'accord là-dessus. Allez, comment on peut aller récupérer de la thune pour aller sécuriser l'open source?
Bah écoute, ça fait plaisir parce qu'on avait parlé du open source pledge, je crois, c'est ça comme ça.
Ouais.
On voit que finalement, c'est en train de bouger en ce moment pour l'open source. On a parlé beaucoup des personnes qui contribuent à l'open source, qui avaient des projets à maintenir, tout ça, qui gagnaient pas leur vie, etc. Et on voit que depuis quelques mois, ça bouge. Donc l'open source pledge, GitHub se lance dans la course aussi avec un GitHub open source fund. Donc pareil, qui va chercher des sous pour le redistribuer à des projets open source, à des mainteneurs, tout ça. Donc ça bouge, voilà, c'est tout frais, hein, 19 novembre, ça vient d'arriver. Donc bonne nouvelle pour les mainteneurs. Maintenant, on peut se lancer dans un projet open source et éventuellement être soutenu par ces fonds d'investissement, on va dire, en quelque sorte. Donc cool. Donc voilà.
Compliqué par contre, hein. Enfin, il faut que ton projet il soit suffisamment solide, qu'il sorte et tout. Enfin,
et ben justement, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 7 janvier. C'est marqué d'ailleurs en gros.
Okay.
2025 et financement et programme débutant en début 2025. Voilà. Donc tu peux déposer, si vous avez un projet open source qui mérite peut-être d'être financé par GitHub Fund, et ben déposer une candidature et peut-être que ça sera accepté.
Excellent.
Voilà. Après, évidemment, il y a certainement différents niveaux de contribution, hein, mais voilà. Cool.
Et on va dire dans le même esprit, en fait, Sentry, ouais. Qui est un outil qui va nous permettre de tracer un peu tous les bugs et de faire du tracing et de l'erreur monitoring, on va dire. Pareil, donne de l'argent pour l'open source aussi.
Ouais, à travers leur open source pledge, justement. Ils annoncent qu'ils ont distribué 750 000 dollars en fait à mainteneurs, projets, tout ça. Donc, ça a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière.
Donc, excellent.
Énorme. Ouais. Donc, c'est cool. Hein, ils soutiennent plein de projets. Enfin, il faut quand même comprendre qu'ils soutiennent plein de projets qu'on utilise nous au quotidien. Donc, c'est quand même super important. Donc, c'est une bonne nouvelle pour l'open source, pour les projets qu'on utilise, tout ça. Et puis, ça n'empêche pas non plus, nous, développeurs, de contribuer ou de donner un petit peu d'argent aussi pour les aider.
Je me pose aussi la question si, au final, il n'y a pas une volonté, si tu veux, d'externaliser indirectement toute la production de code, si tu veux. Au lieu d'avoir des mecs qui sont payés par Sentry pour faire du code et pour faire du review de code, pour faire de l'évolution d'outils open source, ils externalisent ça et ils le donnent à la communauté. Et en fait, je pense que c'est un cercle vertueux. Je ne dis pas que c'est mal, mais c'est un cercle vertueux aussi pour eux, quoi. Tu vois, parce qu'à mon avis, ça va leur coûter bien moins cher de financer des mecs sur leur temps libre pour faire de l'open source, que d'avoir un ingénieur qui paye une blinde en interne pour maintenir en fait ce qu'ils utilisent au quotidien, tu vois, indirectement.
Mmh. Ouais.
Donc, ça se tient aussi, quoi. Eux, ils doivent largement rentrer dans leurs frais aussi, quoi.
Bah oui, c'est clair. De toute façon, à mon avis, faut pas oublier qu'ils sont là pour faire de l'argent à la base. Enfin, c'est des sociétés à but lucratif, hein, on va dire. Donc, ils ont dû faire leurs calculs, c'est clair. Donc, s'ils le font, c'est certainement dans une démarche. Enfin, ils ont dû calculer leur truc. Ils savent très bien. Peut-être que ça leur coûte quand même un peu d'argent. Mais il y a aussi un côté marketing aussi au niveau de l'image, tu vois. Parce que déjà, on en parle, tu vois. C'est le prix, GitHub, tout ça. Ah, c'est bien, ils donnent de l'argent. Donc, il y a un côté marketing. Il y a un côté peut-être aussi décentralisé de maintenance des projets. Ils utilisent aussi beaucoup de briques open source, ces gens-là. Donc, ils ont tout intérêt aussi à ce que ça soit soutenu. Donc, pareil pour Amazon, tout ça. Pour l'instant, on n'a pas entendu les gros comme Amazon, tout ça. Donc, est-ce qu'ils vont faire un peu dans le même style ? On verra.
Tu vois. Yes. Par contre, ce qui est sûr, c'est un autre projet qui, eux, n'ont pas besoin de financement parce qu'ils ont gagné suffisamment c'est d'argent. C'est le projet Bolt.new qui est porté par la société StackBlitz. Où là on va skyfolder en fait un peu un projet immédiat avec un prompt et ça va nous sortir la solution, enfin en tout cas un résultat exécutable, directement exécutable. Donc gros projet et ils annoncent des revenus mensuels un peu hallucinants, quoi.
Un peu indécent. Bon, après, je sais pas combien ils ont de dépenses derrière, parce qu'il y a quand même une IA qui travaille derrière, il y a tout un système. Mais lancé, alors Bolt, ça a été lancé dans la VidConf il y a un peu plus d'un mois.
Un mois et demi.
Et oui, ils annoncent 4 millions de ARR, donc revenus annuels, machin. Donc ils ont atteint 4 millions déjà, le chiffre, et encore, ça va faire qu'augmenter encore, de toute façon, puisqu'on est qu'au premier mois. Donc, c'est apparemment, ça serait l'application qui utilise l'IA qui a le plus, qui est montée le plus vite en fait, en termes de revenus, tout ça, donc, en termes d'utilisation, tout ça.
Après, il y a peut-être un petit peu de market là-dessus, tu vois, de jouer sur des chiffres, mais néanmoins, on peut pas nier que le fait que l'expérience est quand même folle. Alors, moi, j'ai pas fait un vrai projet avec, j'ai juste joué, testé, j'ai fait un prompt, c'est plus, et pourtant, je ne suis pas du tout un expert en prompting, hein, que les choses soient claires, mais c'est hallucinant la qualité et la vitesse à laquelle tu peux sortir quelque chose, quoi. C'est bluffant. C'est vraiment, vraiment très, 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 très bluffant. Donc, puissant.
Oui, on voit beaucoup d'exemples sur Twitter, tout ça, de mecs qui disent j'ai fait ça en une heure, machin, bidule. Même certains qui auraient lancé des vrais projets. Hein. Après, il y a quand même un petit peu d'intervention humaine pour corriger quelques trucs, tout ça.
Réajuster.
Pas non plus rêver. Voilà, c'est pas magique non plus, il faut pas rêver. Mais ouais, c'est assez bluffant. Et ça te sort des trucs bien faits, complets. Tu peux itérer derrière tout ça, machin, corriger. Donc, assez bluffant. Ouais, moi, j'ai envie de dire, c'est... Alors, là, il y a beaucoup d'engouement sur cet outil et puis d'autres outils aussi, mais ça me rappelle un petit peu l'arrivée du no-code. Je pense beaucoup à ça en ce moment. Ça me rappelle un peu l'arrivée du no-code. On disait, ouais, c'est génial, le no-code, on peut faire des sites, on n'a plus besoin de développeurs, c'est génial et tout ça, machin. Il y avait beaucoup d'émotions là-dessus. Et là, on est un peu dans le même style, tu vois. Finalement, est-ce que ce ne serait pas un outil no-code de plus ? Me pose la question.
Alors là, pour le coup, je pense que non, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que ce n'est pas un outil no-code parce que quelqu'un qui n'a pas des compétences, même minimes, en code, il ne va pas pouvoir s'en sortir parce que tu auras toujours des micro-ajustements à faire, tu vois. Et potentiellement, si tu ne connais rien en code, je parle, c'est impossible. Tu ne vas pas y arriver. Tu vois, donc j'y crois pas. Je pense que les meilleures personnes qui vont le meilleur résultat qui sortira d'un outil comme ça, ça sera quand même des développeurs qui l'auront sorti, ou au minimum des personnes qui ont des notions de code. Ils sont pas obligés d'être un développeur expert, tout ça, mais voilà, ils connaissent un minimum d'informations relatives au code, et là il pourra en tirer vraiment profit et tirer en fait toute la puissance de l'outil, je pense. à tester. Okay. En tout cas, si vous ne l'avez pas testé, allez faire un tour. C'est vraiment super.
Ouais, c'est à tester, ça.
C'est vraiment ouais. sympa. Et un petit peu de légèreté, le géant suédois en fait a refait son site internet IKEA. Donc on connaît tous on va dire la compagnie qui nous vend des meubles à monter soi-même ou en tout cas qui a une culture design et tout. Et ils ont fait leur site internet avec
Gatsby.
Non.
Ah mince. Non, ils ont refait. Alors, c'est pas le site e-commerce, hein, c'est le site.
C'est vraiment commercial.
C'est le point com. Ouais. Voilà, commercial, mais c'est pas l'e-commerce, mais il y a déjà pas mal de. Il y a énormément de pages. Hein, si tu vas dans les stories, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup de pages. Ils l'ont fait avec Astro, voilà, tout simplement.
Excellent.
Donc, choix. Donc, ça fait toujours plaisir de voir des gros sites qui sont quand même énormément visités. Partir sur des frames. Ah, tu vois, du Svelte aussi.
Astro et Svelte, ouais.
Donc, voilà. Un petit truc sympa, et léger, pour finir l'épisode.
Exactement. Et pour le coup, tu vois, on est toujours en recherche de la justification d'un framework. Souvent, en fait, on dit « Ah ouais, mais ça, c'est tellement nouveau, en fait, que je ne vais pas l'utiliser. » Je pense que quand une énorme boîte comme IKEA refait ton site internet commercial avec Astro, je pense que c'est un signe quand même relativement fort en disant ces gens-là considèrent que la technologie est suffisamment mature pour mettre leur site internet avec cette techno. C'est un signal plus que fort, quoi. Clairement.
C'est clair. Ouais. Par contre, j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont utilisé en arrière, s'ils ont pris un CMS headless, un truc comme ça. Je ne sais pas s'ils communiquent là-dessus. Mais...
Alors, en tout cas, sur. Ouais, on n'a pas.
Ouais, ils ne le disent pas, mais. Non, ouais. C'est cool. Hein. Non, moi, ouais, tu as raison. C'est un signe de maturité pour une techno quand tu as des grosses boîtes comme ça qui utilisent.
Ah ouais. Clairement. Yes. Patrick, on en reste là pour aujourd'hui. Un grand merci à tout le monde d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. Un petit pouce, discutez, un petit commentaire si vous avez des questions aussi. Ça nous fera grandement plaisir et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Yeah, merci, ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens de l'épisode, les références évoquées durant l'émission.